Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins se brûlent tous les jours aux flammes des cercles de l'enfer, en compagnie de Tristan Grenassia, Marianne Chassard, Pierre Folliet, Géraldine Mosna-Savoie et Antoine Ravon, à la réalisation de Désir de connaissance, Nicolas Berger, à la lecture démesurée, Georges Kless, avec aujourd'hui, à la prise de son au milieu d'une forêt, Emmanuel Morse-Duncan. h 51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui Le génie de la poésie anglaise par Michael Edwards, un livre publié aux belles lettres. Heureux qui comme Ulysse se change et se transforme au gré de ses lecteurs et de ses créateurs. Ulysse était peut-être personne, mais son génie d'avoir inspiré les plus grands écrivains de tous les temps. Ainsi lundi, Jacques Aubert est venu nous transmettre sa passion pour l'Ulysse de James Joyce. Hier, Corinne Joanneau vous a conté la métisse ulysséenne dans l'Iliade et l'Odyssée et chez Giono. Et demain, ce sera Julie Assouli qui s'interrogera sur la transposition du personnage et du mythe antique dans l'Amérique non moins mythique des frères Cohen. Mais aujourd'hui, il nous faut continuer notre voyage, c'est-à-dire braver les flammes de l'enfer pour accéder au 8e siècle, au 8e cercle pour observer, aux côtés de Dante et de Virgile, Ulysse pris entre les flammes fourchues d'un feu crépitant. Ulysse dans le cercle des conseillers perfides, en enfer. Mais quel crime a-t-il donc commis ?
Je m'étais dressé pour voir sur le sommet, et si je ne m'étais agrippé à la roche, je serais tombé sans même être poussé. Mon guide, en me voyant si attentif, « Les âmes se tiennent dans ces feux, dit-il, car elles s'entourent dans ce qui les embrase. » Mon maître, répondis-je, à te l'entendre dire, j'en suis plus sûr, mais déjà je m'étais avisé qu'il en était ainsi, et je voulais te dire, qui donc est dans ce feu si fourchu à sa pointe qu'on dirait qu'il jaillit du bûcher où furmillaient Théocle et son frère ? Là-dedans, me dit-il, endurent leurs tourments Ulysse et Diomède. Ainsi, ils vont ensemble au châtiment comme ils allaient à la colère. Et ils pleurent dans leurs flammes la ruse du cheval qui ouvrit la porte par où sortit le noble germe des Romains. Ils y pleurent la ruse qui fit que, morte, Déidamie se plaint encore d'Achille et y expie le vol du palladium. S'ils peuvent parler dans ces flammes, maître, lui dis-je, je te prie et te repris, et ma prière envahit mille, ne me refuse pas d'attendre ici que la flamme fourche se rapproche. Vois, comme de désir vers elle je m'incline. Il répondit, ta prière est digne de grand éloge, aussi je te l'accorde. Mais veille bien à retenir ta langue, laisse-moi parler, car j'ai compris ce que tu veux, et ils dédaigneraient, comme ils furent grecs peut-être, tes paroles. »
Bonjour Didier Ottaviani.
Bonjour.
Bienvenue sur Nouveau Chemin de la Connaissance. Merci. Vous êtes maître de conférence à l'École Normale Supérieure de Lyon et l'auteur, entre autres, d'un ouvrage intitulé « La philosophie de la lumière chez Dante, du convivio à la divine comédie » paru chez Honoré Champion en 2004. Nous venons d'entendre un extrait du chant 26 de l'Enfer de la divine comédie de Dante. Dante et Virgile arrivent devant un immense bûcher et Dante aperçoit derrière les flammes Ulysse, auquel il brûle de parler malgré les flammes qui le séparent de lui. Alors comment expliquer cette fascination pour ce personnage qu'est Ulysse ?
Alors Ulysse est évidemment un personnage central dans, disons, la tradition culturelle, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, depuis l'Antiquité, par le biais d'Homère, est devenu une sorte de héros complètement mythique, que toute la tradition littéraire évidemment reprend, et que Dante va réarticuler finalement à sa propre manière d'envisager ce mythe d'Ulysse, puisque l'Ulysse de Dante sera un petit peu transformé par rapport à la tradition homérique. Et il y a une fascination parce qu'évidemment Ulysse est une sorte de un voyageur, donc une sorte de miroir de Dante, quelqu'un qui va finalement représenter le risque du voyage. Et donc à ce moment-là, il veut discuter avec cet Ulysse, il veut comprendre un petit peu son histoire, son erreur, d'où le récit par la suite que fera Ulysse de son voyage. Et c'est intéressant de voir que Ulysse est dans cette flamme fourchue, où en fait on ne le voit pas, il est caché. Donc c'est un passage assez, généralement assez obscur, ce passage dantesque sur la question d'Ulysse, parce que pourquoi Ulysse est-il caché dans les flammes? On ne le voit même pas. Pourquoi est-il dans une flamme fourchue? Alors évidemment, avec toute la symbolique de cette fourche qui représente la langue du serpent, donc puisqu'il s'agit justement du cercle des conseillers perfides. Donc il y a tout un rapport aussi avec une trahison du langage chez Ulysse, qui peut paraître assez étonnante, parce que ça n'a rien à voir, on pourrait dire, avec la question du cheval de Troie ou de la métisse telle qu'elle pouvait être envisagée dans donc la ruse telle qu'elle pouvait être envisagée dans la tradition homérique. Ici, il y a aussi quelque chose qui relève de la problématique du conseiller. C'est pour cette raison que la langue d'Ulysse, enfin la langue du feu, parle. Ces flammes sont comme une langue d'où il sort une voix. Alors, il y a toute une métaphore de la lumière chez Dante, justement, qui est une métaphore aussi du langage, puisque pour Dante, le langage est une lumière. Il reprend une tradition d'origine arabe qu'on retrouve, par exemple, dans le Déradis d'Al-Kindi, et qui va expliquer que la langue est une force lumineuse et que, donc, il n'y a pas de véritable magie, parce que les magiciens, en réalité, sont des gens qui utilisent la lumière du langage pour transformer la lumière des choses. Donc ici, cette langue de feu, eh bien, produit une parole. Et cette parole, justement, alors ça peut expliquer pourquoi ce sont des conseillers perfides.
Oui, c'est ça, parce que vous l'avez dit, il est dans le huitième cercle de l'enfer, qui est celui des conseillers perfides. Et alors, bon, les autres cercles, celui le précédent, le septième cercle, c'est la violence, le neuvième, la trahison. On a du mal à comprendre pourquoi Ulysse, il est déjà chez les conseillers. Qui a-t-il conseillé et pourquoi perfide? C'est-à-dire qui a-t-il? C'est-à-dire qu'il a trahi quelque chose, qu'il est comme fourbe, comme de même que cette flamme est fourchue, Ulysse serait fourbe. Est-ce qu'il faut le comprendre par l'utilisation qu'il a fait de la parole, justement?
Alors, pas l'Ulysse véritable, mais l'Ulysse de Dante, effectivement, est à cette fourberie, puisque la métisse signifie non seulement la ruse, mais aussi le conseil. Or, à l'époque de Dante, en fait, au moment où il écrit, il faut se mettre dans la Florence de l'époque, c'est-à-dire que apparaît dans la Florence tardo-médiévale la question des arts, artes dictaminis, c'est-à-dire l'art de dicter. Qui sont des arts de la parole, qui sont mis en place dans les chancelleries et qui seront introduites à Florence par Brunetto Latini, le maître de Dante qu'il rencontre en enfer, et qui sont des arts du conseil. Et Dante lui-même, justement, c'est en cela que Ulysse est une double figure de Dante. C'est une figure du voyage, mais Dante aussi se pense comme un conseiller politique, puisqu'il a une carrière politique à côté. Donc il est très important d'être de bons conseils. Donc toute la réflexion sur la rhétorique et sur l'art de dicter, c'est un art du bon conseil au prince, qu'Ulysse a trahi, puisque lui, son art est rusé et perfide, puisque ce sont des conseils qui sont uniquement des tromperies. Des tromperies, puisque il va y avoir la ruse du cheval de Troie. Alors, dans le texte d'Homère, on ne voit pas pourquoi Ulysse serait véritablement un trompeur.
Oui, c'est ça, dans le texte d'Homère, il n'apparaît pas comme un conseiller qui trompe celui qu'il doit conseiller,
voilà.
Justement.
Donc du coup, c'est une construction, on pourrait dire, finalement, complète de Dante, cette mise en place d'un Ulysse conseiller, qui est sans doute, justement, l'espèce de double figure de Dante, voyageur et conseiller, ou du moins qui se rêve conseiller, puisque il a été ambassadeur, etc. Mais alors l'ambassadeur lui-même voyage d'ailleurs pour prodiguer ses conseils. Donc c'est sans doute pour cela que, sans vouloir l'expliquer de manière absolue, puisque ce passage est finalement très, très obscur, puisque Dante ne s'explique jamais sur le sens véritable, à part ce qu'il a laissé dans son texte. Mais cette signification de conseiller me semble pouvoir être explicitée à partir de cette question-là, et à partir de cette question rhétorique, notamment à cause de Brunetto Latini, qui est rhétoricien, conseiller, qui va décider un petit peu de la mise en place de cet art de dicter dans les chancelleries florentines. Donc on a véritablement une tradition et de la parole, et de la bonne parole, qui doit être le bon conseil positif, dont Ulysse est la figure négative, même si l'Ulysse réel n'était pas véritablement un conseiller. Alors, il a quand même commis des actes qui sont des actes de trahison. C'est de là où naît la perfidie et le côté fourchu de cette langue, puisqu'il partage avec Diomède cette flamme.
Diomède qui lui est le valeureux guerrier, hein, qui est connu justement pour ses actes guerriers.
Voilà, alors, et tous les deux sont, alors c'est leur crime commun, c'est d'avoir volé la statue d'Athéna qui était à Troie et qui était censée protéger Troie, puisque les Grecs ne pouvaient pas envahir Troie tant que la statue d'Athéna était présente. Donc les deux se retrouvent associés dans une punition commune, même si la figure d'Ulysse est évidemment dominante chez Dante, puisque c'est lui qui parle et c'est lui qui raconte toute l'histoire qui suit.
Alors, sauf que justement, c'est Ulysse qui va raconter l'histoire, mais vous l'avez dit, ce sont les flammes qui répondent lorsque Virgile les interroge, et ce n'est pas Dante lui-même qui va s'adresser à Ulysse. Virgile sert d'intermédiaire entre les deux, comme si cette importance de la parole est chez Ulysse et chez Dante faisait qu'ils ne pouvaient pas vraiment se rencontrer et dialoguer, qu'il y avait besoin d'une distance, les flammes, et d'un intermédiaire, à savoir Virgile.
Oui, parce que Virgile est toujours un intermédiaire pour Dante, notamment en enfer, qui est le passage le plus risqué du voyage de la Divine Comédie. Et Dante ne peut finalement pas faire grand-chose tout seul. Il est toujours amené à recevoir une médiation dans son voyage, qui est la figure de Virgile, qui reprend là aussi la médiation d'Énée dans sa descente aux enfers, puisque lui est guidé par la Sibylle. Donc lui-même, aîné, ne peut pas aller directement, puisqu'il doit aller discuter avec son père Anchise, dans le cas d'aîné, dans l'Énéide au livre 6. Donc de ce fait, on a besoin toujours d'une médiation, parce que Dante est un mortel, Dante est descendu avec son corps, Dante n'a pas une autorité suffisante pour s'adresser à cette flamme antique qui a toute la grandeur du héros, du mythe, et qui de ce fait est démesurée par rapport à la simple figure de Dante, qui est un individu. À l'époque, il n'a pas la gloire qu'il peut avoir aujourd'hui, même s'il est, relativement important dans l'Italie de l'époque. Mais ce n'est pas un mythe, alors que Ulysse est un mythe, justement, est une figure qui vient directement de l'Antiquité. Donc la médiation de l'Antiquité grecque au Moyen-Âge italien, c'est l'Antiquité latine. C'est-à-dire que Virgile assure la jonction entre deux époques.
L'action d'Ulysse est indiscutablement le voyage d'Ulysse, car ce dernier n'est rien d'autre que le sujet dont on raconte l'action, alors que l'action ou l'entreprise de Dante n'est pas son voyage, mais la composition de son livre. Dante était théologien. Très souvent, la rédaction de la Divine Comédie aura dû lui paraître non moins ardue, peut-être même non moins risquée et fatale, que le dernier voyage d'Ulysse. Il avait osé forger les arcanes que la plume de l'Esprit-Saint esquisse à peine. L'entreprise constituait peut-être une faute en soi. Il avait osé mettre Béatrice Portinari sur le même rang que la Vierge et que Jésus. Il avait osé devancer les sentences de l'insondable jugement dernier que même les bienheureux ignorent. Que d'efforts laborieux pour la gloire, qui est chose éphémère. Dante aurait donc symbolisé un conflit mental. Je pense qu'il l'a symbolisé également, peut-être sans le vouloir ni le savoir, dans le récit tragique d'Ulysse, et que c'est à cette charge d'émotion que ce récit doit sa force terrible. Dante a été Ulysse. Il a pu craindre en quelque sorte le châtiment d'Ulysse.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Van Rett.
Deux choses intéressantes dans le texte de Borges et Didier Taliani dont je viens de lire un extrait, hein, c'est dans ses 9 essais sur Dante, le dernier voyage d'Ulysse. D'abord, la précision du fait que Dante était théologien, donc peut-être ce qui permet d'expliquer une dimension qui est plus morale de la lecture d'Ulysse, hein, que le texte d'Homère n'est pas du tout moral. Là, il y a vraiment l'idée de condamnation que vous avez déjà évoquée, il y a un jugement qui est énoncé contre Ulysse, et deuxièmement, cette identification finalement entre Dante et Ulysse. Dante peut-être serait l'objet d'un conflit mental, en tout cas, la fascination dont on parle, la fascination que suscite Ulysse pour lui, serait aussi l'expression d'une volonté presque d'identification. Dante, comme Ulysse, veut partir à la recherche de quelque chose et veut, et dans une espèce de quête dont il ne sait pas à quoi elle conduira.
Oui, c'est tout le problème de Dante, effectivement, de se positionner vis-à-vis de la figure d'Ulysse. Alors, bon, pour ma part, je ne dirais pas que c'est un théologien, puisque, disons qu'au sens de l'époque, il n'est pas théologien, puisqu'il n'a pas fait de véritables études de théologie, il n'est pas docteur en théologie. Néanmoins, il y a une dimension, effectivement, théologique dans son voyage, et c'est tout son problème. C'est ce qu'il dit dès le début de l'Enfer, au livre 2, où il va dire « Qui je suis pour initier ce voyage ?» Puisque je ne suis ni aîné ni Paul. Ce qui fait que nous avons trois figures du voyage qui apparaissent dans ces passages de l'enfer. D'une part, la figure d'aîné, donc qui est descendu discuter avec son père Anchise, qui est raconté chez Virgile dans l'Énéide, et qui a une justification. Bon, alors déjà, il est guidé par la Sibylle, donc il a une raison de descendre, et puis il a un but. Et puis c'est un personnage héroïque, puisque Aîné, alors c'est très intéressant d'ailleurs la figure d'Aîné par rapport à la figure d'Ulysse, puisque Aîné est un Troyen, et Ulysse est le responsable de la chute de Troie. Donc Aîné va avoir une fonction positive, puisqu'il fonde l'Italie. C'est tout le mythe à l'époque médiévale de la fondation de l'Italie par le voyage d'Aîné, qui va être mis en place, dont le récit va être mis en place par Virgile. C'est-à-dire qu'après avoir fui Troie, Aîné erre un petit peu à la manière d'Ulysse, mais alors que Ulysse revient au point de départ, puisqu'il retourne à Ithaque, finalement, Aîné, lui, ne revient jamais à Troie, mais va fonder, il va arriver en Italie, il va fonder le Regnum Italicum, le royaume d'Italie, ou l'Italie en tant que telle. Donc, disons que c'est une figure mythique fondamentale pour Dante, puisque c'est une figure aussi politique, puisque la question de l'identité italienne est fondée sur Aîné. Donc, son statut mythique lui donne une raison de faire ce voyage. Dans le cas de saint Paul, eh bien, comme il le raconte dans la seconde épître aux Corinthiens, eh bien, c'est Dieu directement qui l'a ravi au paradis, au troisième ciel, qui lui a montré les merveilles du paradis, qui l'a ramené sur terre. Et bon, il ne peut pas raconter ce qu'il a vu, puisque, comme le dira Dante d'ailleurs au paradis, eh bien, ces merveilles ou ces lumières, ma langue est vaincue lorsque je veux les décrire. Donc saint Paul, lui, ne peut pas raconter ce qu'il a vu au paradis. Mais c'est Dieu directement qui l'a appelé. Donc tout le problème, c'est qu'est-ce que fait Dante ici ? Qui l'a appelé ? Puisque lui, il s'est retrouvé dans une forêt obscure, il avait quitté une voie droite.
L'enfer s'ouvre avec ces vers-là, effectivement. Il se retrouve au milieu de sa vie, au milieu d'une forêt obscure.
Et donc à ce moment-là, il erre dans cette forêt, il rencontre des bêtes horribles, c'est Virgile qui vient le sauver, donc il a finalement un guide, mais le risque, c'est Ulysse. C'est-à-dire celui qui a fait un voyage démesuré.
Alors c'est ça, parce que vous dites le risque c'est Ulysse, mais qu'est-ce qui représente un risque chez Ulysse ? Ce serait la démesure d'Ulysse, enfin tel que Dante le perçoit.
C'est la démesure, c'est-à-dire c'est l'hubris, ce que les Grecs appelaient l'hubris. Pourquoi ? Parce que la manière dont Dante recompose le personnage d'Ulysse, c'est un personnage qui a fait quelque chose que n'a pas fait Ulysse dans le récit homérique, c'est-à-dire qu'il a outrepassé les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire qu'il est allé au-delà de l'interdit, évidemment, du voyage, puisqu'on ne peut pas passer les colonnes d'Hercule, donc qui correspond au détroit de Gibraltar. Et il est allé vers un autre monde, alors qui est très intéressant, parce que qu'est-ce qu'il voit dans cet autre monde ? Il le dit un peu plus loin, il voit une très grande montagne. Mais Dante y va, justement, puisque après avoir escaladé Dithée et être passé par les tréfonds de l'enfer, il va escalader cette montagne qui est le purgatoire. Puisque selon la tradition, eh bien, le purgatoire est une montagne qui serait située au-delà des colonnes d'Hercule, au sommet duquel se trouve le paradis terrestre. Donc c'est exactement ce que décrit Dante. En fait, le purgatoire est une construction un petit peu tardo-médiéval. Il y a un livre de Jacques Le Goff, d'ailleurs, sur la naissance du purgatoire, qui est une construction, disons, de la fin du Moyen-Âge, qui n'existait pas auparavant. Mais en tous les cas, et on retrouve toute la symbolique ici, donc cet Ulysse est un Ulysse qui va vers le purgatoire et qui se trouve englouti à ce moment-là, justement. Donc la démesure, c'est cela, c'est-à-dire qu'il a outrepassé les colonnes d'Hercule, il a voulu aller vers ce qui était ignoré, vers une connaissance qu'il ne pouvait pas atteindre. Il a voulu dépasser finalement sa condition humaine et s'est trouvé englouti pour cette raison-là. Alors le problème, c'est que Dante est exactement dans la même dans la même configuration, puisqu'il est parti faire un voyage, il descend en enfer. Bon, son objectif, c'est d'aller au paradis, ce qui n'est pas rien. Et est-ce qu'il ne va pas finalement être englouti ? Est-ce que tout cela n'est pas une folie ? Donc, ces trois figures permettent de comprendre les trois aspects du voyage, le voyage divin de saint Paul, le voyage mythique d'Énée, et le voyage démesuré d'un homme qui a voulu se diviniser, Ulysse.
Mais comment en est-on arrivé là, à cette lecture d'Ulysse, qui est bien différente de l'Ulysse de Homère ? Que s'est-il passé entre les textes d'Homère et celui de Dante, pour que la figure d'Ulysse en soit ainsi transformée, qu'il soit jugé aussi négativement pour sa démesure, et que sa soif de connaissance, sa curiosité qui l'a fait voyager, soit désormais condamnée ? Et condamnable, en tout cas.
Alors, à cause d'un mythe qui se construit de manière un petit peu diffuse au Moyen-Âge, qui est justement cet Ulysse qui outrepasse les colonnes d'Hercule. Dante s'inscrit visiblement dans, disons, ce que l'on raconte sur Ulysse, qui aurait effectivement fait ce voyage. Donc, il devient une figure de la démesure. Il devient une figure de la démesure parce que, eh bien, la tromperie du cheval de Troie apparaît comme quelque chose qui marque une sorte de génie, mais le problème justement de ce génie, c'est qu'il est au-delà de l'humain. Donc Ulysse est pour cette raison une figure très étrange dans la composition finalement symbolique de l'Antiquité et par la suite du Moyen-Âge, mais même jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est la figure d'un humain, mais d'un humain exceptionnel, qui n'est pas un héros au sens des autres héros grecs, c'est un héros guerrier, mais qui a un héros en un autre sens, c'est-à-dire c'est le héros humain, on pourrait dire. C'est le héros qui, par sa connaissance, par sa volonté, par sa ruse, par toute une série de qualités qui sont humaines et pas uniquement guerrières, eh bien, va tenter de se diviniser. Et ça, c'est quelque chose qui le distingue complètement des autres héros grecs, qui sont plus ou moins tous des guerriers. Et de ce fait, il y a peut-être une identification plus forte avec le personnage d'Ulysse parce qu'il ressemble à un humain, et au risque démesuré de l'humain, qu'aux autres héros grecs, qui finalement étaient des figures de la guerre, du combat, de la noblesse valeureuse, etc.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, Ulysse lui-même ne cherche pas à se diviniser, mais c'est une interprétation qu'on peut faire de ses exploits, et aussi de son propre rapport à ses faiblesses. Ulysse, dans l'Odyssée, s'adresse à lui-même, on l'a commenté cette semaine, hein, patience, mon cœur, il s'adresse à lui-même une injonction au calme, ce qui lui donne une épaisseur psychologique et en même temps une profondeur assez rare dans la littérature, en tout cas à ce moment-là. Mais lui-même ne se prend jamais pour un dieu, et on y entend finalement dans le reproche que d'autres peuvent lui faire d'avoir voulu se mettre à la place de Dieu comme une forme de jalousie. Il est tellement humain qu'il en devient divin, mais ce n'est pas un souhait de sa part de devenir divin. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même une rivalité là qui s'installe entre ces figures.
Oui, bien sûr, puisque si on regarde, l'Ulysse d'Homère est un autre personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de complètement différent, c'est quelqu'un de véritablement, effectivement, humain, dont les ruses sont des phénomènes, finalement, de son intelligence, mais qui n'a pas voulu faire un voyage. Le voyage lui a été imposé par Poséidon, qui l'a obligé à errer, etc. Donc il n'est responsable de rien, en quelque sorte, Ulysse. Alors que chez Dante, il est responsable, puisque il demande à ses compagnons d'aller au-delà des colonnes d'Hercule. Et Dante dit, au lieu de vouloir retourner voir Pénélope, alors pour Dante, évidemment, qui aime Béatrice, il aurait fallu qu'il n'ait qu'un objectif, c'est retourner voir Pénélope, et lui veut aller au-delà des colonnes d'Hercule.
On va l'écouter, on va lui laisser la parole. C'est au chant 26, toujours de l'enfer, les vers 91 à 120, interprétés par Georges Class.
Quand je quittais Circé, qui me cacha plus d'une année là-bas, près de Gaète, avant qu'Énée lui ait donné ce nom, ni la douceur de mon enfant, ni la piété pour mon vieux père, ni le devoir d'amour qui aurait dû donner la joie à Pénélope ne purent vaincre en moi l'ardeur que j'eus à devenir expert du monde et des vices des hommes et de leurs valeurs. Mais je me mis par la haute mer ouverte, seul, avec un navire et cette compagnie petite qui jamais ne m'a abandonné. Je vis l'une et l'autre rive, jusqu'à l'Espagne, jusqu'au Maroc et l'île des Sardes, et les autres que cette mer baigne tout autour. Mes compagnons et moi, nous étions vieux et lents lorsque nous vîmes à ce passage étroit où Hercule posa ses signaux afin que l'homme n'allât pas au-delà. Je laissais Séville à main droite, à main gauche, j'avais déjà passé Ceuta. « Oh, frère, dis-je, qui par 100 000 périls êtes venu à l'Occident, et à cette veille si petite de nos sens qui leur reste seuls, Ne refusez pas l'expérience en suivant le soleil du monde inhabité. Considérez votre semence. Vous ne fûtes pas faits pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h26, c'est le troisième temps de notre série d'émissions consacrée à Ulysse, et pour l'occasion c'est de l'Ulysse de Dante que nous parlons aujourd'hui, en présence du philosophe Didier Ottaviani, qui est maître de conférence à l'École Normale Supérieure de Lyon, et l'auteur du livre La philosophie de la lumière chez Dante, du Convivio à la Divine Comédie, disponible chez Honoré Champion.
Bestie sono ardore, stanno in un luogo tutte l'intemperie, si radunano laggiù, oh che miserie, si radunano laggiù, oh che miserie.
Didier Ottaviani, la présence d'Ulysse au sein de la Divine Comédie est extrêmement brève. Hein. Ça tient en quelques vers, quelques chants. Et le monologue que l'on vient d'entendre, le monologue d'Ulysse, donc toujours au chant 26 de l'Enfer, est à la fois très court, en même temps décisif pour comprendre le projet même de Dante. Et on y entend, si on lit attentivement le texte que l'on vient d'écouter, à la fois l'expression du désir d'Ulysse de devenir, dit-il, l'expert du monde et des vices des hommes et de leurs valeurs, et en même temps en appelait une forme d'expérience du monde, où il dit aux hommes que vous n'êtes pas fait pour vivre comme des bêtes, mais pour suivre vertu et connaissance. C'est-à-dire qu'il y a une dimension à la fois, disons, épistémologique, il faut connaître le monde, et en même temps quasiment morale, puisqu'il s'agit des vices et des vertus des hommes.
C'est exactement, pour, disons, une reprise. Alors, la fin du texte, si on la regarde, où il y a une injonction, considérez votre semence, vous ne fûtes pas fait pour vivre comme des bêtes, est une reprise du début de la métaphysique d'Aristote, c'est-à-dire qui affirme dans le premier... première ligne, les hommes désirent naturellement savoir. Donc le savoir fait partie du destin humain. Ce savoir, chez Aristote, prend deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a d'une part un savoir de l'expérience. Ce sont ce qu'on appelle les livres de philosophie naturelle, qui sont tous les livres sur la physique, etc. Alors que Dante, disons, voit apparaître, puisqu'ils ont été traduits en latin très tard. Ils ont été traduits à partir du XIIe siècle. C'est surtout au XIIIe siècle que ces livres vont faire scandale. Puisque un autre Aristote apparaît. Il y avait un Aristote qui était l'Aristote logicien, qu'on connaît depuis Boèce, donc des catégories, etc. Donc pour les médiévaux, Aristote était d'abord un logicien. Mais apparaît un second Aristote, c'est-à-dire quelqu'un qui a écrit des livres de philosophie naturelle, qui s'intéresse à la génération des animaux, des choses étranges, comme ça, qui vont être interdits, d'ailleurs, ils vont être interdits d'enseignement à l'université durant le XIIIe siècle, parce que, ils semblent remplis d'hérésie, ils sont difficilement conciliables avec l'Aristote logicien. Et cet Aristote-là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, il faut connaître par expérience. Alors qu'il sort un petit peu d'une tradition, d'une connaissance, si l'on est dans une connaissance de type augustinienne, c'est-à-dire où c'est par l'illumination divine que l'on connaît, dans un rapport finalement à Dieu. Ici, il s'agit de faire des expériences, alors qui sont très importantes évidemment à l'époque où Dante écrit, puisqu'on a d'abord des grands courants médicaux qui apparaissent, puisque Galien continue d'apparaître, mais commence à être de plus en plus traduit. Il y a Aristote, donc il y a toute une série de penseurs qui vont dire que la connaissance se fait par un recours à l'expérience. Et ce recours à l'expérience, a aussi une valeur morale, puisqu'il y a l'autre partie d'Aristote, qui est le philosophe moral. Donc Aristote a un triple aspect, et ils sont difficilement conciliables pour les auteurs de l'époque. Parce que comment faire une science expérimentale, entre guillemets, puisque ce n'est pas le sens qu'on lui donnerait aujourd'hui, mais passer par l'expérience pour connaître, et en même temps être moral. Donc c'est ça que...
Donc tous ces textes sont connus de Dante au moment où il rédige la Divine Comédie.
Oui, parce que c'est le moment... Alors en fait, il a commencé... Au départ, il ne les connaissait pas quand il a fait ses premières œuvres, ou mal, quand il a fait la Vita Nova et les Rimes, mais à partir du Convivio, justement, alors le Convivio qui est son banquet, où il invite tout le monde à venir manger à la table du savoir, eh bien là, il a commencé à étudier Aristote. Et donc ça a été visiblement un changement radical dans sa vie. Et si on lit le Convivio, parallèlement à la Divine Comédie, on voit apparaître justement une connaissance d'Aristote relativement précise, même si ce n'est pas un spécialiste universitaire, qui n'est pas évidemment explicité dans la Divine Comédie, puisque la Divine Comédie est un poème, donc on ne peut pas faire de grandes démonstrations philosophiques. Mais par contre, on retrouve des conclusions de démonstrations. C'est-à-dire que les vers sont comme des conclusions. Par exemple, le fait que les hommes désirent naturellement savoir est finalement la conclusion d'une démonstration aristotélicienne, puisque Aristote cherche à montrer pourquoi l'homme est tendu vers la connaissance. Donc ici, c'est... une sorte de presque un lien hypertexte, on pourrait dire, de l'époque, qui pour un lecteur lettré, eh bien, fait appel directement à cette idée du savoir, avec un problème qui est très important, qui est de savoir est-ce que cette recherche de la connaissance que l'on développe par la philosophie n'est pas d'une certaine manière une démesure aussi.
Voilà, ça c'est la question que j'allais vous poser, parce que finalement cette identification à Aristote ou la référence explicite à Aristote ne fait pas pencher Ulysse du côté de la démesure, au contraire d'un savoir, disons, assez rigoureux et philosophique qui n'est pas du tout condamnable, y compris aux yeux de Dante.
Pas aux yeux de Dante, mais aux yeux des censeurs qui opéraient, du moins dans les époques précédentes. Enfin, on peut penser aux censures de 1277, en mars 1277, où beaucoup de propositions, non pas aristotéliciennes, mais de ceux que l'on appelle les arciens, c'est-à-dire les enseignants de philosophie de l'université parisienne, qui sont des aristotéliciens, mais des aristotéliciens hérétiques, qui prétendent que la philosophie peut permettre de connaître par elle-même, sans avoir recours à la théologie, l'ensemble des choses et l'ensemble du monde. Alors, ce qui, évidemment, est une volonté d'autonomie de cette philosophie. Donc, cette autonomie de la philosophie, eh bien, c'est une philosophie qui voudrait vivre par elle-même, qui, chez Dante, prend une autre figure, qui est la philosophie d'un laïc, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'a, aux deux sens du terme, c'est-à-dire qui n'est ni un clerc, d'une part, et qui n'a pas non plus, d'un autre côté, une formation universitaire classique. Donc, cette philosophie se met à exister. Et alors c'est très intéressant de voir que la philosophie est très fortement condamnée en 1277, parce que l'archevêque de Paris, Étienne Tempier, qui émet les condamnations, eh bien, va condamner ce que l'on appelle la magnanimitas des philosophes, cette espèce de grandeur d'âme, justement, qui les fait croire être des êtres quasi-divins, comme le disait Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Et c'est ça qui est condamné. Donc la connaissance devient une des mesures pour les théologiens. Du point de vue de Dante, évidemment, elle est l'achèvement de l'humanité. C'est ça qui va lui permettre de conduire, par son désir, eh bien, l'achèvement de son voyage.
Outre la concupiscence de la chair, qui consiste en la délectation voluptueuse de tous les sens et dont l'esclavage perd ceux qui s'éloignent de vous, il y a dans l'âme une autre convoitise qui s'exerce par les mêmes sens corporels mais tend moins à une satisfaction charnelle qu'à faire des expériences par le moyen de la chair. Vaine curiosité qui se couvre du nom de connaissance et de science. Comme elle est faite de l'appétit de connaître et que entre les sens, les yeux sont les principaux instruments de la connaissance, l'oracle divin l'a nommée la concupiscence des yeux. D'après cela, on peut distinguer plus clairement le rôle du plaisir et celui de la curiosité dans l'action des sens. Le plaisir recherche ce qui est beau, mélodieux, suave, savoureux, doux au toucher. Et la curiosité, elle, veut aussi faire l'essai d'impressions contraires, mais non pour s'exposer à une peine, mais par désir de faire des expériences et de connaître. Quel plaisir peut donner la vue d'un cadavre déchiré qui fait horreur ? Pourtant, qu'il en gise quelque part, on accourt pour s'attrister et pâlir d'émoi. On craint de le revoir en rêve, comme si quelqu'un nous avait contraint à le contempler pendant la veille ou que le renom d'un bel objet à voir nous avait entraînés. « Voilà peut-être ce qu'il s'est passé entre l'Ulysse d'Homère et l'Ulysse de Dante Didier Ottaviani, qui explique aussi la distorsion de cette figure et la dimension plus morale que propose Dante d'Ulysse dans son texte. C'est le christianisme. Et c'est Saint Augustin, dont je viens de lire un extrait des Confessions, le livre 10, le chapitre 35 sur la curiosité, où là il associe très clairement la curiosité à cette forme de concupiscence des yeux qui ne peut être que condamnable. Et c'est en ce sens que du coup le désir de connaître Ulysse, qui paraissait si valorisant et si louable chez Homère, va devenir un objet de condamnation sans appel.
C'est effectivement le christianisme qui procède à cette modification, et un christianisme qui va s'articuler sur une question qui est une question étant celle de la connaissance. C'est-à-dire, est-ce que je peux connaître par moi-même, c'était les philosophes dont je parlais tout à l'heure, ou est-ce que ma connaissance dépend toujours d'une descente de Dieu en moi? Ce qui est la thématique de l'illumination augustinienne. Donc, en fait, les deux courants à l'époque de Dante coexistent. C'est-à-dire qu'il y a le courant d'un néo-augustinisme, entre guillemets, qui va reprendre cette théorie de l'illumination intellectuelle. C'est-à-dire que la connaissance provient d'un influx divin. Et donc, au final, c'est Dieu qui me fait connaître. Mais il y a aussi une version néo-aristotélicienne. Alors, qui est très varié, parce qu'il y a plein de formes d'aristotélisme très différentes en réalité, mais qui explique que je connais à partir de ma sensation, puisque c'est ce qu'on appelle des autorités à l'époque, c'est un des propositions faisant autorité, et une des propositions faisant autorité, c'est la science débute par la sensation, qui est une conclusion aristotélicienne. Donc si la science débute par la sensation, eh bien, je dois rentrer dans le sentir pour accéder à l'intelligible. Mais c'est cela qui est démesuré. Est-ce que je vais pouvoir atteindre Dieu par la connaissance? C'est tout le problème de Dante. Est-ce que je vais pouvoir remonter au paradis? Puisque tout le voyage est symbolique, c'est un trajet dans la connaissance. Je descends justement dans cette concupiscence, j'ai la curiosité. Je vais en enfer, et Dante est très curieux. Si on regarde l'ensemble des passages de l'enfer, même là, il veut aller voir Ulysse.
Oui, il se met en haut d'un rocher pour essayer d'observer.
Bien sûr, on dirait un petit enfant qui essaye de voir un petit peu toutes ces choses incroyables qu'il découvre en enfer. Donc, il est très, très risqué d'assumer cette figure, puisque c'est juste un petit curieux. Et la curiosité est un vilain défaut, comme on le sait. Donc de ce fait, il faut, d'une certaine manière, mettre de manière négative, repousser de manière extérieure cette figure de la curiosité, en montrant bien que l'on n'est pas Ulysse. Donc Ulysse est condamné, il est dans ses flammes, etc. C'est pas la même chose que l'on fait. Alors ça va être difficile de savoir exactement ce que l'on fait en étant Dante, mais on veut montrer que ce n'est pas la même curiosité que celle d'Ulysse, parce qu'on sait que celle d'Ulysse est condamnée. Ce qui, d'une certaine manière, en miroir, revalorise la curiosité de Dante. Il connaît, il fait des expériences, il va voir les choses, mais lui, il a une orientation qui est morale. Parce que lui, son but, c'est de remonter au divin, c'est d'achever une certaine construction morale de l'individu. Et donc, de ce fait, toute sa science, entre guillemets, est une science en vue de la morale. Pour Dante, une des sciences les plus importantes, c'est la politique, qui est la science architectonique des sciences morales. Donc pour lui, c'est véritablement un penseur de la morale avant tout. Si l'on fait de la physique, ce n'est pas pour connaître les choses du monde extérieur, c'est en vue de permettre une meilleure compréhension du fonctionnement moral de l'individu. Donc la morale est la science à partir de laquelle se structurent les autres sciences. Tandis que chez les philosophes aristotéliciens ou chez certains médecins, c'est la physique qui va être la science la plus importante. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, qu'Ulysse est une figure de cette physique qui va dans les choses sensibles et qui s'y noie.
Précisément, parce que dans l'enfer de Dante, Ulysse raconte lui-même comment il est mort. Il serait mort noyé dans une tempête avec ses amis. Hein. Il n'aurait pas réussi à vaincre la colère de la mer. Et ça, c'est une version complètement nouvelle de l'Odyssée.
Il ne retourne pas voir Pénélope, qui n'a strictement rien à voir avec le véritable Ulysse. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de regarder le début du texte qui était lu tout à l'heure, puisque Ulysse a énormément de défauts, en réalité. Puisque il fait un voyage en ne cherchant pas à s'occuper de ses enfants, donc c'est un mauvais père. Il n'a pas de piété pour son vieux père, donc c'est un mauvais fils. Et en plus, il n'a pas d'amour pour Pénélope, c'est un mauvais mari. Donc autant dire que c'est un personnage complètement immoral, puisque tout ce qui fait la construction morale de l'individu pour Dante, la famille et évidemment l'amour de la dame, puisque bon, Béatrice, c'est depuis les premières œuvres l'unique objet de Dante, c'est-à-dire ce que disait Boccace, Dante fut un piètre philosophe parce qu'il était trop passionné pour Béatrice pour véritablement travailler la philosophie. Bon, ce que je pense assez injuste, parce qu'il ne fut pas si piètre que ça, mais cette passion pour Béatrice, c'est véritablement le maître mot de Dante. Donc, qu'Ulysse ne retourne pas voir Pénélope, ce qui est faux en plus, c'est, disons pour lui, eh bien, la condamnation maximale. C'est-à-dire que c'est l'amour de la dame qui aurait dû le conduire à retourner chez lui, et l'amour du père, et l'amour du fils. Donc, il construit un Ulysse complètement négatif, qui n'a rien à voir avec le mythe d'Ulysse véritable, parce que c'est véritablement une figure, c'est-à-dire quelque chose qui est construit dans un but, on pourrait dire rhétorique, de montrer à quel point il ne faut pas être semblable à cet Ulysse, entre guillemets, qui est celui de la Divine Comédie, qui est un amoureux de la connaissance, démesuré, qui passe les colonnes d'Hercule et qui fait un voyage à partir de ses propres forces humaines, ce qui conduit à l'engloutissement.
Et qui pourtant, cette figure va revenir et dans le purgatoire et dans le paradis. Il y fait référence dans chacun de ces chants. Dans le purgatoire, c'est à l'occasion de la rencontre avec une sirène, enfin une femme qui est présentée comme étant bègue et louche, avec des pieds tordus, et qui va se révéler extrêmement belle et se présenter comme étant la sirène qui a enchanté Ulysse. Et au paradis, la référence est encore plus furtive. Mais ce personnage d'Ulysse, qui est le seul personnage antique présent dans la Divine Comédie, finalement va l'accompagner, même par référence plus lointaine, tout au long de son parcours.
C'est exactement cette fonction miroir, c'est-à-dire que quand Dante se retourne et qu'il regarde son visage dans un miroir, eh bien de temps en temps il voit Ulysse. Et il se le rappelle en permanence dans les Trois Royaumes, justement, que attention à ne pas être englouti. Parce que n'oublions pas que Dante a une métaphore nautique dans la Divine Comédie. C'est ce qu'il développe au début du paradis, puisqu'il se présente comme le legno che cantando varca. Je suis le bateau qui vogue en chantant. Alors il a toute une métaphore pour expliquer que nous sommes dans une petite barque et que nous devons le suivre. C'est-à-dire qu'il ouvre un sillage et il faut le suivre avant que l'eau ne redevienne calme. Alors, il y a un très beau texte d'Ossip Mandelstam dans ses Entretiens sur Dante, où il dit que Dante fut un poète qui, d'une époque de navigation à voile, de grand essor de la navigation, donc il y a toute une métaphore nautique, et il nous invite ainsi à entrer dans ce voyage nautique, de suivre son bateau, mais son bateau, il va falloir justement qu'il ait une mer calme. Et donc, en permanence, le risque, c'est le tourbillon qui a englouti Ulysse. C'est-à-dire que lui-même est un voyageur qui a passé les colonnes d'Hercule, puisqu'il va au purgatoire. Donc, d'une certaine manière, il a transgressé l'interdit. Il va falloir le justifier. Il va falloir éviter d'être englouti. Alors, bien sûr, il y a Virgile qui l'aide. Mais surtout, c'est parce que Virgile explique qu'il vient parce que Béatrice l'a envoyé. C'est-à-dire que c'est du paradis que vient directement l'ordre du voyage, au final, c'est ce qu'on découvre, essentiellement au paradis. C'est-à-dire que Béatrice a appelé Dante et lui a envoyé Virgile pour l'amener vers elle et qu'il puisse faire ce trajet au travers de la morale, c'est-à-dire passer par l'enfer, mais non pas pour, comme Ulysse, eh bien, rester dans le monde du sensible, selon un trajet en quelque sorte horizontal, mais pour passer dans une verticalité et remonter au-delà du sensible, vers l'intelligible le plus parfait qui sera atteint au paradis. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une justification. Dante n'est ni Aîné, ni Paul, ni Ulysse, parce qu'il est Dante, et parce que Béatrice l'a appelé. Donc il y a bien une raison à son voyage.
Et donc c'est Béatrice qui justifie a posteriori toute l'entreprise qui est morale, parce que finalement, à vous écouter, on entend bien que tout le trajet de Dante, c'est celui d'une forme de transformation, de perfectionnement moral. Il s'agit de savoir qui il est et se défaire de ses propres maîtres.
Alors effectivement, ça c'est quelque chose qui est sans doute fondamental chez Dante, c'est cette idée de la métamorphose. C'est quelque chose qui est déjà sensible au tout début dans la Vita Nova, où quand il voit Béatrice, qu'elle lui refuse son salut, puisque Béatrice le dédaigne quelque peu, donc il change de couleur. Et il devient pâle comme la mort à la fin. Donc il y a toute une idée de la métamorphose chez Dante, qu'on voit apparaître à de multiples reprises. D'une part, la sirène qui se métamorphose, déjà, puisqu'il y a plein de figures de la métamorphose, puisqu'il y a les damnés là, qui se transforment d'arbre en homme et re-en arbre. Donc, tout est une métamorphose, mais c'est aussi une métamorphose du poète. Et cette métamorphose, chez Dante, est prise... Il y a la mauvaise métamorphose, c'est celle des damnés qui se transforment en arbre, puis en homme, puis re-en arbre, puis en homme. Donc, ils sont dans un cercle infini de transformations qui n'aboutissent à rien. Et il y a la bonne transformation... qui est la purification. D'ailleurs, au paradis, lorsqu'il arrive au purgatoire, eh bien, un ange lui trace 7 plaies sur le front, qui sont les 7 plaies des 7 péchés, et progressivement, les plaies s'effacent à mesure qu'il monte. Et il finit par traverser des flammes, d'ailleurs, à la fin du purgatoire, qui sera la fin de cette purgation. Donc il réalise toute une purgation dans le purgatoire, d'ailleurs, quand il passe au cercle des orgueilleux, qui regardent le sol parce qu'ils sont contraints de baisser la tête expier leur péché. Eh bien, Dante sent qu'il s'alourdit. Et il se rend bien compte qu'il a été très orgueilleux parce qu'il le sait. Dante est très orgueilleux. Il se considère comme le plus grand poète de son temps, etc. Donc, même s'il l'est, le fait qu'il en soit conscient est de l'orgueil. Et donc, il expie ce péché en symboliquement, parcourant le giron des orgueilleux à la manière dont les orgueilleux expient leur peine. Donc il expie tous les péchés dans ce trajet, ce qui est une métamorphose, mais une métamorphose, on pourrait dire, positive, puisque en sort la dernière figure, qui est celle du paradis, le trasumanar, c'est-à-dire le passage dans un au-delà de l'humain.
Mais moi, pourquoi venir? Qui le permet? Je ne suis ni aîné, ni Paul. Ni moi, ni aucun autre ne m'en croit digne. Aussi je crains, si je me résous à venir, que cette venue ne soit folie. Tu es sage, tu comprends mieux que je ne parle. Tel est celui qui ne veut plus ce qu'il voulait, changeant d'idée pour des pensées nouvelles, si bien qu'il abandonne ce qu'il a commencé. Tel je devins sur cette pente obscure, car en pensant, je consumais toute l'entreprise qui fut si dure en son commencement.
5 fois la lune se reflète sur la plaine marine. Puis, à l'horizon bleu, monte une île plus haute qu'aucune des îles que j'ai vues jusqu'alors. Hardi, compagnon ! Hardi ! Mais le vent s'élève, la mer mugit, la trombe vers nous s'avance. 3 fois sur lui-même, le navire tournoie comme Toton. Sous lui, la mer s'ouvre. Il glisse dans cette faille qui sur lui se referme. C'en est fait de nous ! Ainsi, Virgile, plut-il à quelqu'un que je n'accoste pas à l'île entreaperçue. Et maintenant, je brûle, non pour cette mort que causa mon audace, mais bien pour toutes les ruses que j'ai tant machinées.
Va, flamme sans repos, je te laisse danser parmi tous ces méchants qui semèrent la discorde.
Leave you.
Un grand merci, Didier Otaviani, d'être venu nous parler de Dante aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous.
C'est avec l'enfer, non pas de Dante, mais d'ACDC que nous nous quittons. Alors je renvoie à la lecture notamment des textes de Borges, j'en ai eu un extrait en début d'émission. 9 essais sur Dante, on trouve ça aux éditions Arcade et Gallimard. La divine comédie de Dante, chers auditeurs, lisez-la notamment chez Flammarion, avec, dans un texte traduit et le texte original, avec une traduction de Jacqueline Risset. L'Iliade et l'Odyssée, évidemment, nous ont accompagnés toute cette semaine, nous accompagneront encore demain. On les trouve en bouquin, par exemple, chez Robert Laffont. Et votre ouvrage, Didier Otaviani, je ne l'ai plus sous les yeux, rappelez-moi le titre de votre ouvrage sur la lumière
philosophie
de Dante.
Philosophie de la lumière chez Dante, du convive via la divine comédie.
Chez Honoré
chez
Champion.
Chez Honoré Champion, qui va être réédité au Classique Garnier.
Écoutez France Culture, ACDC, les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient vous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Où vous nous parlez de l'excellent Michael Edwards.
L'excellent Michael Edwards qui fait paraître le génie de la poésie anglaise aux éditions Les Belles Lettres. Quel est le génie de la poésie anglaise ? Eh bien, c'est la question toute simple que pose le passionnant professeur et poète Michael Edwards dans un ouvrage qui vient tout juste de paraître aux éditions Les Belles Lettres. Demander ce qu'est le génie de la poésie anglaise, c'est se demander à la fois ce qui la différencie de toutes les autres poésies et ce qui la rend géniale. La question est donc double. Il s'agit de percer la nature de cette poésie, sa spécificité, mais aussi, et c'est la suite naturelle de la première question, de révéler en quoi cette poésie fait exception. Alors aussi étonnant que cela puisse paraître, jamais une telle étude sur la nature de la poésie anglaise n'avait encore été entreprise. Michael Edwards le fait. À partir de ses cours donnés au Collège de France, il s'attelle à cette tâche et il dégage tous les caractères spécifiques de cette poésie, de ses commencements jusqu'à l'époque contemporaine. Et pour autant, quand on lit cet ouvrage, il n'y a rien de scolaire. On y découvre certes de manière pédagogique une exception anglaise, on est tenu en haleine par les péripéties de cette langue à partir d'exemples concrets. Cette langue qui mélange épopée et quotidien, innocence et expérience, élan religieux et ancrage empirique. Et sous la plume de Michael Edwards, la rigueur de l'analyse se mêle à l'expérience du poète et rend ainsi le caractère exceptionnel de la poésie anglaise. C'est justement parce qu'elle est un jeu d'opposition qu'elle est géniale. Mais alors l'une des choses les plus troublantes reste le rapport de la poésie anglaise avec le réel. On dit souvent que le français rend une idée quand la langue anglaise va rester comme engluée dans le réel, eh bien c'est là que réside paradoxalement le sublime de cette poésie, dans son jeu avec le trivial, dans cet attachement à rendre le réel qui nous entoure dans toute sa profusion, dans tous ses détails, mais surtout dans l'immédiateté de nos sensations au plus proche de nous et qui participe en même temps à un réel idéal.
Donc je sens une semaine sur la poésie anglaise se profiler au nouveau choix.
J'espère. Donc c'est un ouvrage, je rappelle le titre, Le génie de la poésie anglaise, c'est de Michael Edwards et aux éditions Les Belles Lettres.
Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à Ulysse. Demain, je recevrai Julie Assouli qui viendra vous parler de la transposition du mythe antique et du personnage d'Ulysse au sein du cinéma des frères Coen, notamment leur film Oh Brother, Where Art Thou. Mais d'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Mais surtout, vous pourrez la podcaster, c'est-à-dire la télécharger, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.